Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. En souhaitant une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Ce soir, on va parler de la vie d'un des plus grands personnages de l'Ancien Testament, si ce n'est le plus grand. Si je vous dis un des plus grands ou le plus grand des personnages de l'Ancien Testament, qu'est-ce que vous me dites comme nom? Ah, j'ai entendu la réponse. En tout cas, que je vais pour ce soir. On a dit Moïse ou
Abraham.
Et en fait, Moïse, je le considérais comme le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Mais Abraham comme le plus grand personnage de l'Ancien Testament. Parce que nous allons voir que vraiment c'est un homme qui a su marcher avec Dieu. Et il a une superbe histoire où il y a tellement de richesses que l'on peut puiser pour nos vies spirituelles. Vous savez, l'Ancien Testament est très intéressant pour le caractère des personnages. Pas seulement pour ça, mais surtout pour ça. Pas tellement pour les promesses, parce que l'Ancien Testament a des promesses inférieures aux nôtres. C'est pour ça que quand on prêche à partir de l'Ancien Testament, il faut faire extrêmement attention de ne pas nous appliquer n'importe quelle doctrine ou n'importe quel verset. Parce qu'on a une meilleure alliance basée sur de meilleures promesses.
Donc,
moi, je préfère mettre mon nez dans le nouveau contrat. Parce que le nouveau contrat est bien meilleur que l'ancien. Par contre, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup ce qu'on appelle de biographies, c'est-à-dire de personnes, de personnages qui ont marché avec Dieu et qui nous enseignent beaucoup de choses. Et Abraham, franchement, j'aime beaucoup voir sa façon, la façon dont il s'est comporté devant Dieu. Un homme qui va recevoir la plus grande promesse qu'aucun homme n'a jamais reçue sur la terre. Un homme qui est un exemple partout, qui est cité partout dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament d'ailleurs. Un homme qui avait une grande foi, qui a été appelé le père des croyants, et pourtant un homme qui était comme vous et moi, c'est-à-dire aussi qui a fait ses erreurs et il en a fait de sérieuses, mais le bilan de sa vie va être un bilan extrêmement positif malgré des erreurs, malgré des péchés qu'il va commettre, malgré des tournants tragiques qu'il va parfois prendre. Et vous voyez, ça va nous enseigner beaucoup de choses. C'est un homme qui reçoit une promesse merveilleuse, qui va se retrouver pendant des années à ne rien voir, mais qui va apprendre à faire confiance à Dieu. Un homme qui a marché avec Dieu. Et ça n'a pas été simple. Parce que lui, il n'avait pas la parole de Dieu. Lui, il n'était pas né de nouveau. Et il s'est retrouvé seul à seul à se débattre avec tout un tas de choses. Donc ce soir, on va faire une introduction sur sa vie. Et Abraham va vraiment très bien finir. Malgré des moments de difficulté. Des moments de désert, des moments d'erreur qu'il va payer aussi, des moments de foi extrême, des moments de révélation extraordinaire. Mais Dieu a béni cet homme. Et aujourd'hui, si nous sommes en Christ, c'est parce qu'il y a eu un homme un jour qui a cru pour une promesse. Si aujourd'hui il y a le peuple d'Israël selon la chair, c'est parce qu'il y a un homme qui a cru. Mais aussi, s'il y a un peuple qui se bagarre et qui veut l'extermination d'Israël, c'est parce qu'il y a un homme qui avait des promesses et qui aussi a fait des erreurs. Je vais vous montrer comment fonctionne la volonté de Dieu et la destinée divine. Au travers d'Abraham. J'aime beaucoup utiliser le personnage d'Abraham pour la destinée divine.
Parce que,
honnêtement, il y a tellement d'enseignements sur sa vie et comment Dieu fonctionne avec nous. Que c'est vraiment quelque chose qui doit être implanté en nous. Donc on va commencer à lire, son histoire commence dans Genèse chapitre 12. Et on verra un peu l'arrière-plan d'Abraham. Mais on va d'abord lire des versets qui sont extrêmement connus, les versets du chapitre 12 de la Genèse. On va lire donc du verset déjà, du verset 1 au verset 5. Et nous allons apprendre plein de choses déjà, rien qu'avec ces 5 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, alors on verra pourquoi d'abord il s'appelait Abraham et puis qu'après il s'est appelé Abraham, il y a plein de choses aussi là. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Alors verset 3, il est dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit sa femme Sarah et son neveu Lot, avec tous ses biens qu'il possédait et le personnel qu'il avait acquis à Haran ou à Charan dans d'autres traductions. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Tu peux lire en Girondi. Merci.
Nguhoraho abarira Aburamu ati ntiyari bwa be Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka nanje zo guhindura ubwoko bukomeye zo guha umugisha izina ryawe ndarigire rurangiranwa n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe abazoguhezagira nzobahezagira kandi uzokuvuma nzomuvuma kandi muri wewe niho imiryango yose yo mwisi zohega umugisha. Nuko Aburahamu aragenda nkuko horahamu bariye Lot ajana nawe. Aburahamu yari amaze imyaka 75 igihe yava i Harani. Aburahamu ajana Sarayi umugore wiwe na Lot umuhungu wabo n'itunga ryabo ryose bari batungiye i Harani. Bona abantu baronkeyeyo bavaho ngo baje mu gihugu cy'i Kanani, nuko bashika i Kanani nyene.
Alors là on est environ 1950 ans avant Jésus, c'est-à-dire 2000 ans avant Jésus. En gros.
Il n'y
a pas encore le peuple d'Israël. Puisque c'est d'Abraham que va naître le peuple d'Israël. Donc on est dans un temps où on n'a pas d'alliance de la loi de Moïse. Et là où la région où habitait
Abraham,
c'était ce qu'on appelle la Mésopotamie. Bon, bah, c'est l'Irak actuel.
On
a tellement entendu parler de l'Irak ces 15 dernières années avec toutes les guerres et tout cela.
Et
particulièrement, il y a un grand fleuve qui traverse tout l'Irak, c'est l'Euphrate. Alors, on a un peu de mal à se mettre dans, je dirais, dans le contexte, parce que bah, aujourd'hui, on est dans des villes organisées, dans des pays organisés, dans des gouvernements organisés.
Mais
à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. C'était des peuplades de quelques dizaines de milliers de personnes en général. Donc des gens qui avaient un territoire. Souvent qu'ils le défendaient. Et puis, bon, c'est vrai que le long du fleuve, c'est là où il y avait beaucoup d'habitants, parce qu'en général, là où il y a de l'eau, c'est plus facile d'habiter. Il y avait quelques villes à l'époque, mais ce n'était pas courant. Surtout dans ces régions-là, beaucoup de gens vivaient sous des tentes. Beaucoup de peuplades étaient ce qu'on appelait des nomades, c'est-à-dire qu'ils se déplaçaient d'endroit en endroit. Alors, comment dire, Abraham va sortir de son pays, de sa patrie. À l'époque, vous savez, il n'y avait pas de carte, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de route macadamisée. On
ne
connaissait pas grand-chose sur la terre. Donc si Dieu lui disait, va-t'en de ta patrie, de ton pays, là, de l'endroit où tu es né, où tu as grandi, c'était vraiment aller vers l'inconnu. Par exemple, si aujourd'hui on nous dit bon ben tu vas aller étudier à Bruxelles, bon ben pour nous c'est pas tellement inconnu parce qu'on a juste à regarder sur internet ou on a déjà vu des images de Bruxelles à la télévision, enfin bref quoi, par exemple c'est connu.
On
a des repères quelque part. Mais là, quand Dieu va dire à Abraham, va-t'en de ta patrie. Dans le pays que je te montrerai futur. Ça va vraiment être un acte de foi terrible. Parce que ça va être l'inconnu total pour Abraham. Ça va être vraiment un test incroyable pour lui. Ça va être le début d'une école qui était absolument extraordinaire pour Abraham, mais qui n'a pas été chose facile. Marcher avec Dieu n'est pas forcément très facile parce que c'est complètement différent du monde qui nous entoure. Et souvent, c'est pas facile parce que nous avons du mal à comprendre comment ça fonctionne. Quand tu commences à comprendre, ça devient facile. Mais ce qui est le plus difficile, c'est de vouloir marcher avec Dieu, avec les mentalités qu'on a, comme on marche sur la terre, avec notre propre intelligence. Parce qu'en fait, ça va être un apprentissage du monde divin.
Et
c'est quelque chose qui est complètement différent. C'est un peu comme la musique. Si vous apprenez la musique, les musiciens vont vous dire, tu vas apprendre un nouveau langage, un nouveau monde. Tu vas parler de choses, ça va devenir ton vocabulaire. C'est comme ça que les vrais musiciens deviennent des musiciens. Ils apprennent un nouveau langage, ils sont dans une nouvelle sphère. Et au bout d'un moment, ça devient des choses qu'ils comprennent, et quand ils commencent à comprendre, bah, ça marche tout seul. C'est un peu comme ça avec Dieu. Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Les peuplades qui vivaient dans la ville où Abraham habitait, c'était des peuplades qui adoraient des démons, qui faisaient plein de sorcelleries. On ne sait pas comment Abraham a commencé à connaître le Seigneur. La Bible ne nous le révèle pas. Par contre, la Bible nous montre dans certains passages que le père d'Abraham était quelqu'un qui adorait des idoles. Donc Abraham ne venait pas d'un arrière-plan où il avait hérité d'une culture divine. Il était le tout premier de sa famille à marcher avec Dieu. Et en général, quand vous êtes le tout premier dans une famille à marcher avec Dieu, vous allez avoir des défis que les autres n'auront pas parce que quand on vient après, on peut nous expliquer les choses. Et Dieu va lui montrer le prix pour avoir une destinée divine. C'est ce que Jésus va dire dans Matthieu 16:24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la retrouvera.
Aravuga ngo buno nyene Yesu abwira abigishwa biwe ati umuntu niyagomba kunkurikira ni yiyanke yikorera umusaraba wiwe ankurikire kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura ariko uzoheba ubugingo bwiwe kubwanje.
La première chose que Dieu va demander à Abraham, c'est de couper avec sa vie. Et si tu veux vraiment accomplir ta destinée divine, il va falloir que Jésus devienne numéro un dans ta vie. Ça veut dire que tout ton arrière-plan, quel qu'il soit, bon ou mauvais, tu vas le laisser pour suivre le Seigneur. Je parle ici de réussir sa destinée divine. Je vois trop de gens qui prient, qui demandent des choses à Dieu, qui veulent que Dieu fasse ça et ça dans leur vie, qui ressentent des appels, qui ont toutes sortes de choses auxquelles ils pensent et qui brisent ces choses, mais ça ne se produit pas parce qu'ils veulent les exécuter avec leurs propres idées. Et ça, c'est le problème de la grande majorité des chrétiens. Dieu leur parle, mais là-dedans, ils ne veulent pas laisser l'Égypte, entre guillemets. Et quand je parle de l'Égypte, c'est vrai qu'on va dire, oui, ça c'est la vie de pécheur, mais moi je ne fais plus les trucs que je faisais avant. D'accord. Ça, c'est laisser une partie de ta vie. Mais
ce
n'est pas seulement ça. Renoncer à sa vie, c'est aussi renoncer à nos façons de faire. Et vous savez, ça, c'est plus très prêché en ce moment. On prêche plus, soyez bénis. Demain tu seras, demain Dieu va faire ça et ça pour ta vie. J'ai pas de problème si c'est de la vraie prophétie. Mais la condition pour voir vraiment la destinée divine s'accomplir, c'est de laisser ta vie derrière toi. Et c'est de la mettre devant Dieu. En disant, Seigneur, moi j'ai ma vie à vivre sur cette terre. Je veux vraiment marcher avec toi. Et je veux laisser ce que tu me demanderas de laisser. Quoi que tu vas me demander de faire, je vais le faire et je vais laisser ce qui me rattache à cette ancienne vie. Donc c'est sûr que c'est vrai par rapport à tout ce qui peut être péché, tout ce qui peut être une vie, vous savez, quand on se donne, quand on se donne au Seigneur. Mais c'est aussi laisser toutes nos mentalités. C'est aussi laisser vraiment tout ce que nous aimerions que Dieu fasse et la façon dont nous aimerions qu'il le fasse. Tant que tu ne sortiras pas entre guillemets de la maison de ton père, tu comprends l'expression? Tu
ne
sortiras pas de ta patrie, ça veut dire de ta façon dont tu veux faire les choses. Tu ne pourras pas entrer dans ta destinée divine.
Et
il y a beaucoup de gens qui sont bloqués à cause de ça. Ils veulent faire des choses qui disent être pour Dieu. Mais avant que Dieu puisse réaliser ta destinée, il va falloir que tu sois purgé, que tu sois nettoyé de tes façons de penser et de faire. Donc Dieu lui dit, tu dois pars de la maison de ton père. En quelque sorte, il va lui dire, renonce à ta vie. Vous savez, je ne crois pas, d'après ce qu'on lit dans l'Écriture, que Abraham a même revu son père. Donc, il laissait vraiment sa vie derrière lui. Il était prêt à aller accomplir sa destinée divine. Si vous voulez aller loin avec Dieu, il faut être des gens de conviction. Dieu ne se plaît jamais avec des gens qui sont, on dit en français, mi-figue, mi-raisin. Ça veut dire que, en fait, tu es partagé des deux côtés. Tu veux d'un côté certaines choses et d'un autre côté, tu veux bien le Seigneur. Non, avec Dieu, il faut être clair. Seigneur, je veux m'engager à 100%. Je veux m'engager totalement. Abraham, il savait qu'en partant, il laissait tout derrière lui. Et tout était consacré à Dieu. Son futur était complètement dans les mains de Dieu. Il y a parfois des gens, vous savez, ils essaient toujours de se dire, bon, si ça ne marche pas, quand je vais obéir au Seigneur, j'aurai le plan B. Avec Dieu, ça ne marche pas. Apprends à être quelqu'un de conviction avec Dieu.
Dis,
Seigneur, vraiment, moi, je veux que tu m'utilises. Et je laisserai ce que je dois laisser derrière moi. Fais attention si tu pries une telle prière. Fais très attention si tu pries une telle prière. Parce que Dieu va te tester. Donc fais très attention.
Vous
savez, il y a des choses des fois qu'on ferait mieux de ne pas dire à Dieu.
On
ferait mieux de lui dire, tu sais, moi Seigneur, je ne suis pas prêt à tout laisser. Mais si tu dis je suis prêt à tout laisser, sois sûr que tu sois prêt à tout laisser. Parce qu'au moment où ça va chauffer, au moment où il y a beaucoup de choses autour de toi qui vont se casser la figure alors que tu auras obéi à Dieu, tu seras comme les Égyptiens. Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Parce qu'au moins en Égypte, il y avait des tombes décentes pour nous enterrer. Sous-entendu, ils voyaient que le désert, c'était que du sable, et pour creuser, à moins d'être un banda, c'est facile pour creuser, hein, pour faire une tombe. Mais une chose est sûre, C'est que ces gens-là n'ont jamais eu une destinée réussie. Si tu n'es pas quelqu'un qui est prêt à tout laisser. Et je ne dis pas de laisser n'importe comment, à faire n'importe quoi comme certaines personnes le font. En disant, j'arrête mon travail, je donne tous mes biens. Ça c'est les gens qui n'ont aucun bien qui disent et qui n'ont pas de boulot, j'arrête mon travail et je vais tout. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui disent n'importe quoi, qui font n'importe quoi. Dieu ne te demande pas ça. Par contre, ce que Dieu veut, c'est que tu sois quelqu'un de conviction. Comme disait Jésus, que votre oui soit oui.
Yes,
et que votre non soit non. Ici, Dieu va lui dire, va-t'en, pars de ta patrie. Et va vers dans le pays que je te montrerai, c'est-à-dire vers l'inconnu. Vous savez, quand Dieu nous demande de laisser nos vies, c'est ça que j'aime avec Dieu. C'est parce qu'il a toujours quelque chose de meilleur. Et ça, tu dois toujours compter là-dessus. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 1, verset 19, quelque chose vraiment qui nous donne une espérance. Une très belle promesse. Parce que quand Dieu te dit de laisser quelque chose, il a toujours quelque chose d'excellent pour toi. Mais là, je rajouterai un mais, et ce mais, ce n'est pas le mais du doute. Du tout. Je rajouterai, mais il va falloir que tu comprennes que le meilleur de Dieu, tu ne l'auras pas devant tes yeux demain.
Ariko ukamenya yuko iciza c'Imana iguteguriye ko wahebye cyakindi udacushoko kukibona ako kanya nyine.
Dieu, la façon dont il opère, c'est exactement ce qu'il a fait avec Abraham.
Ubuge Imana ikorana natwe nibwo buryo yaciyemwe mu gukorana
na Abraham. Toute cette vie.
Ubuzima bwawe akakubira ati ubwo buhebe bwibagiye.
Comme Jésus avait dit à Pierre, voilà maintenant laissez vos barques, laissez vos filets et suivez-moi.
Hey,
Pierre avait une famille. Et il avait des revenus au travers de la pêche. Mais là, Jésus lui a parlé spécifiquement. Il a dit, laisse tout ça parce que maintenant, je vais te faire de toi un pêcheur d'hommes. Dieu ne dit pas ça à tout le monde comme ça. Mais d'une manière générale, ce que Dieu veut, c'est que tout ce qu'il y a, tout ce que tu vis aujourd'hui, ce sera des choses qui n'auront plus aucune importance pour toi dans quelques années parce que tu seras dans le meilleur de Dieu.
Vous
voyez, parfois il y a des gens qui se donnent à Christ. Et ils sont persécutés par leur famille. Mais quand ils entrent dans la famille de Dieu, s'ils vont à l'école de Dieu, quelques années plus tard, ils auront une bien plus grande famille que leur famille naturelle. Des fois, tu laisses certains biens parce qu'il y a des choses que tu n'as pas fait honnêtement. Certaines relations qui ne sont pas bonnes. Où Dieu te demande de te planter dans tel ou tel endroit. Dieu a toujours quelque chose de spécial.
Oui,
il y a parfois des gens, souvent je rencontre des gens qui voyagent ici, parce qu'ils viennent ici pour des missions.
Vous
savez, à l'église, ici, souvent on a des gens qui viennent, qui travaillent dans les organisations internationales et qui viennent pour des missions ici. Et souvent, je parle avec ses frères et sœurs. Et la plupart du temps, voilà ce qu'ils me disent. Quand on m'a dit qu'il y avait un poste au Burundi, je
ne
savais même pas où ça se trouvait, je ne savais même pas que c'était en Afrique. Souvent les gens disent ça, je vous assure, j'ai plusieurs témoignages comme ça. Mais je me souviens d'un frère, récemment je parlais avec lui. Il a été muté ici pour plusieurs années.
Et
sa femme et lui ont fait l'institut, enfin elle est en train de terminer l'institut biblique. Et lui il l'a déjà fait.
Et
quand on entend son témoignage, il voulait tout sauf venir ici. On lui a dit, il cherchait un poste d'expatrié, il travaillait dans la même organisation dans son pays. Il y a eu ce poste qui s'est ouvert ici.
Et
il a dit non, je ne vais pas aller là quand même. Mais à l'intérieur de lui, vraiment il a senti que c'était ça. Et il s'attendait vraiment au pire du pire. Mais ils ont fait tellement de progrès avec sa femme que le jour où ils vont partir d'ici, ils seront vraiment tristes.
Vous
voyez, parfois le Seigneur peut nous planter quelque part.
Où
on
n'a
pas envie forcément d'aller. Il y a des fois des endroits ou des relations qu'on va avoir.
Où
on ne choisirait pas ça en premier. On le mettrait peut-être en dernier sur la liste. Mais le Seigneur te dit, si c'est ça que je veux pour toi. Et tu te retrouves à un moment et tu commences à dire, maintenant, j'ai compris pourquoi le Seigneur a fait ça pour moi. Je
ne
pourrais pas vous donner le nombre d'expatriés que nous avons comme ça. Encore hier, j'entendais un témoignage d'une sœur qui me racontait ça.
Et
régulièrement, j'entends ça. Vous savez, parfois, Dieu vous met dans des endroits, vous envoie quelque part. Et en quelques années, vous vivez des transformations. Tout laisser derrière soi, souvent va être synonyme de ça, mais il y a des conditions. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dieu a le meilleur pour ceux qui laissent les choses qui ne sont pas vraiment importantes derrière eux. Si tu t'accroches à tout un tas de trucs, parfois tu es peut-être fiancé à quelqu'un. Je me souviens comme ça d'une sœur. Elle s'était convertie il y a bien bien des années. Et bon, elle fréquentait un garçon. Et juste là, elle s'est convertie. Et puis on avait quelqu'un qui s'occupait des nouveaux convertis à l'église. Et il lui a dit, laisse cette relation. Elle était très accrochée au garçon. Très accrochée au garçon. Elle n'était pas prête à le faire, en tout cas au début. Et le frère qui s'occupait des nouveaux convertis lui a dit, il faut que tu laisses ça. Elle a laissé cette relation et elle a commencé à marcher avec le Seigneur. Et c'était pas évident franchement au début, parce qu'elle venait vraiment d'une vie qui était pas facile. Et quelques années, le Seigneur lui a vraiment apporté un très bon mari. Aujourd'hui, ils font une belle famille. Et oui, il y a des choses comme ça que les gens ne veulent pas laisser.
Mais
ils ne se rendent pas compte que Dieu a meilleur. Et ils se laissent piéger par des choses en fait, sur lesquelles ils s'accrochent. Laisse ce que le Seigneur te montre de laisser. Si le Seigneur te montre de laisser certaines choses, laisse-les. Parce que la parole de Dieu nous promet que si nous sommes obéissants et que nous avons de la bonne volonté, alors Dieu a le meilleur pour nous.
Et
il y a souvent des choses qui nous empêchent de marcher dans le meilleur de Dieu.
Parce
qu'on n'est pas prêt à laisser certaines choses.
À
laisser certaines mentalités parfois.
À
laisser certains fardeaux au Seigneur aussi. À laisser des choses derrière toi qui finalement ne sont pas importantes. Mais il y a la petite voix là de l'ennemi qui dit, tu sais, si tu laisses ça, qu'est-ce qui va se passer demain?
Et
ça, c'est justement le mensonge du diable pour t'empêcher de marcher dans la foi. Si Dieu te demande de laisser beaucoup de choses, c'est qu'il a un grand meilleur, si on peut s'exprimer
ainsi.
Plus tu laisses derrière toi, plus Dieu va te donner des choses extraordinaires. Abraham, quand il est parti de la maison de son père, il avait une sécurité dans une ville. Et je vous ai dit, les villes étaient très rares à l'époque. Être nomade était dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'attaques sur les camps nomades. Et Abraham, pour lui, c'était sortir d'une certaine sécurité. C'était aller vers l'inconnu. Mais la foi, c'est ça. C'est aller vers l'inconnu. La foi, c'est conquérir des territoires inconnus. Mais ces territoires sont excellents. Parce que la foi va te permettre de conquérir ces territoires, de posséder ces territoires. Parce que Dieu sait ce qu'il y a dans ces territoires. Et pour ça, il faut que tu laisses derrière toi un certain nombre de choses. Ensuite, Dieu va lui faire des promesses. Vous savez, quand Dieu nous dit, voilà, laisse ça, j'ai quelque chose de meilleur pour toi, tu dois écouter la promesse. Mais rappelle-toi, tu ne marcheras pas dans le meilleur de Dieu du jour au lendemain. Il va y avoir tout un cheminement dans le Seigneur qui va te permettre, si tu comprends, si tu obéis, si tu marches dans la foi, ça va te permettre au bout d'un moment de marcher dans le meilleur de Dieu. Je dis et je le rappelle, parce que ça, c'est souvent, excusez-moi l'expression, mais la tromperie de certains prédicateurs. Et ça, je n'aime pas ça. Parce que les gens, après, sont bourrés d'illusions, de promesses, où ils disent demain, après-demain, ou là, il y a la faveur, ou ceci, ou demain, je vais avoir ça, et ça, et ça. Mais à chaque fois qu'il y a des promesses de Dieu, il y a toujours des conditions que l'homme doit remplir. À chaque promesse, il y a conditions. Si tu remplis les conditions divines, Dieu va accomplir ses promesses. Nous verrons que ça va être aussi le cas pour Abraham. Il
n'y
a pas de promesse que Dieu va faire, pouf, comme ça, et toi, tu n'as ni à croire, ni à obéir. Ça, ce n'est que illusion et mensonge. On te montre un joli château, mais en fait, sur ce château est fait de carton, et le carton, vous savez, c'est pas très solide quand il y a du vent.
On
appelle ça en français un château de cartes. Et c'est là, vous savez, c'est quand vous prenez un jeu de cartes, vous pouvez vous amuser à les mettre comme ça, verticalement, horizontalement, et ça tient. On s'amusait à faire ça, comme ça, et les cartes, ça monte, et puis d'un seul coup, quand vous avez mis beaucoup de cartes qui tiennent en équilibre, il y en a un qui s'amuse toujours à faire, et tout s'écroule.
Voilà,
et ça, c'est exactement les promesses qu'on fait miroiter à certains chrétiens en leur disant que demain tous les problèmes seront résolus. que il y a la faveur de Dieu à partir d'aujourd'hui parce que quelqu'un a dit qu'il y a la faveur de Dieu sur toi.
Non,
la faveur ça s'attire. La faveur ça s'attire. On attire la faveur. La bénédiction se libère par la foi et par l'obéissance. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, frères et sœurs. Il y a un chemin que tu dois faire pour apprendre à marcher avec Dieu. Certains parmi vous, vous avez reçu d'excellentes promesses de Dieu.
Mais
il va falloir travailler à ces promesses pour que vous puissiez les voir s'accomplir, sinon elles ne s'accompliront jamais. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les paresseux spirituels. Dis à ton voisin, ne sois pas un paresseux spirituel. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui malheureusement pensent que tout va s'accomplir comme ça.
Non.
Dieu va lui faire des promesses. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu deviendras donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, il y a beaucoup de choses déjà ici. C'est vrai que c'est une promesse très particulière pour Abraham. Mais elle nous enseigne beaucoup de choses. D'abord, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les superlatifs, là, une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Dieu n'est pas le Dieu du petit. Moi, je suis fatigué d'entendre des fois des chrétiens qui disent « Oui, j'ai un petit témoignage. » Et vraiment, ces petits microscopes électroniques doivent être apportés pour qu'on puisse voir le témoignage. Et en plus, on se demande si vraiment Dieu a fait quelque chose dans le coup.
Non,
soyons clairs. Quand Dieu intervient, il intervient, comme on dit en anglais, big. Ça veut dire que la situation était bloquée complètement, humainement parlant. Quand Dieu intervient et qu'il bénit, il bénit. Ça coule et vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Dans la marche, ça marche avec Dieu. On voit Abraham. Pour moi, il est comme un bulldozer, Abraham. C'est ce que vous devez devenir, des bulldozers. Un bulldozer spirituel. Vous savez, un bulldozer, on en a besoin quand on veut nettoyer un terrain. Un bulldozer, c'est une grosse machine qui permet de pousser tous les gros cailloux, de faire tomber les arbres, de démolir les murs. Ça vous permet d'aplanir une route alors qu'elle est comme ça. En fait, ça défonce tout et rien ne peut lui résister. Un gros bulldozer, rien ne peut lui résister. Ça n'avance pas vite, mais ça détruit tout ce qu'il y a sur son passage. Parce qu'un gros bulldozer, ça a une masse immense. Et quand ça avance, les arbres font « Non, 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 au secours !» Les gros bulldozers, ils sont capables de vous déraciner un arbre comme
ça.
De rentrer dans un mur, paf, de casser le mur comme ça. De casser les poteaux. Ça évitera de prendre 10 pauvres maçons qui vont se casser le dos pour casser le poteau.
Il
y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Comme le maçon qui est là avec son marteau, et le marteau va, la tête du marteau va tomber 10 fois avant qu'il casse un petit morceau de poteau.
Et
ils sont là, ils essayent de taper contre des bétons. Et en fait, ils n'avancent pas. Dieu
ne
t'appelle pas à être un petit maçon, il t'appelle à être un gros bulldozer.
Qui
est capable d'enlever tout ce qui va déranger ta vie
et
qui t'empêchera d'aller vers ta destinée. C'est ce à quoi tu es appelé. Et c'est vers ça que tu dois converger dans ta vie. Aucun obstacle ne doit être trop grand pour toi. Aucun défi ne doit te faire peur. La seule personne que tu dois craindre, c'est Dieu. Et la seule personne que tu dois surveiller, ce n'est pas le diable ni les autres, mais toi. Vous savez, il y a des gens qui, entre guillemets, surveillent le diable toute la journée. Ah là, ces gens-là, ils sont terribles. Ou alors, ils surveillent les autres parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Non, la personne que tu as vraiment à surveiller, c'est toi-même. Parce que c'est toi ton pire ennemi dans ta destinée. Nous verrons que pour Abraham, ça a été le cas et c'est le cas pour chacun d'entre nous. Et le seul que tu dois vraiment craindre n'est ni le diable, ni les démons, ni les gens, mais c'est Dieu seul. Donc Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. À partir du moment où tu laisses ta vie, Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Quel que soit ce que tu ressens, Dieu te montre toujours de grandes choses. Si tu cherches la face de Dieu en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu as comme destinée pour moi ? Dieu ne te montrera jamais de petites choses. Parce que Dieu est toujours le Dieu du grand. Je ferai de toi une grande nation. On verra que ça, c'est les promesses de base de Dieu et qu'Abraham va faire des bêtises. Et au départ, c'est ce qu'il dit, une grande nation.
Mais
en fait, il y aura deux nations qui vont sortir d'Abraham. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Alors, quand on lit ça, là aussi, nous devons comprendre ce que ça veut dire. Dieu ici parle d'influence. Et Abraham a influencé des millions, des dizaines, voire des centaines de millions d'êtres humains sur la terre. C'est ça, quand Dieu dit « je vais te rendre ton nom grand », ce n'est pas pour que tu dises « moi maintenant, je suis grand, soumettez-vous à moi ». Moi j'entends parfois des prédications, excusez-moi, mais qui me font vomir. Où il y a des gens qui ont pris des choses du royaume de Dieu. Ils parlent du règne, ils parlent de régner dans cette vie. Et ils sont ni plus ni moins en train d'utiliser les principes du royaume de Dieu pour se construire des empires personnels, pour que ce soit eux-mêmes qui soient élevés en tant que prédicateurs. Et ça, je suis désolé, ce n'est pas scripturaire. Ça devient, on parle que de la personne. On adule le serviteur de Dieu. Je suis désolé, la Bible ne dit pas ça. Jésus dit que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit quoi ? le plus petit.
Mais
de plus en plus, parce qu'on cherche des foules, parce qu'on veut des grands ministères, on veut se mettre tout en haut.
Et
on veut montrer qu'on est grand, qu'on a tant de personnes dans nos églises. Et on met le nom de la personne avec tous les titres, parce que maintenant évidemment il faut mettre des titres, si on n'a pas de titre on n'est rien du tout. Ça c'est le monde et la mentalité du monde. Jésus et les apôtres n'ont jamais fonctionné comme ça. Donc quand la parole de Dieu parle de rendre le nom d'Abraham grand, c'est simplement de refléter la gloire de Dieu. Mais l'homme n'a pas le droit de prendre la gloire de Dieu. Et beaucoup utilisent l'évangile pour se glorifier, pour se mettre dans les hauteurs, malheureusement. Et ça, c'est vraiment inacceptable. Et Dieu jugera ces personnes. On n'utilise pas l'évangile pour s'élever nous-mêmes. D'abord, la vraie élévation vient du Seigneur. Et quand quelqu'un est vraiment très influent, il doit veiller à ne pas tomber dans l'orgueil ou qu'on parle plus de son nom à lui que du nom du Seigneur Jésus. Nous sommes dans des temps, je vous dis, dans certaines nations, je le vois, et je le vois de plus en plus dans le monde francophone, où on commence à faire des empires. On veut faire des empires au travers de ministères. Les anglophones l'ont fait beaucoup et les francophones commencent à prendre la suite. Et c'est vraiment triste de voir ça. On n'a pas construit des empires, on a construit le royaume de Dieu. On ne sera pas récompensé sur le nombre de gens qu'il y aura eu dans notre église. On sera récompensé selon ce qu'on aura fait de la volonté de Dieu, et quand on n'aura pas pris de gloire sur cette volonté de Dieu. Donc Dieu va faire d'Abraham, il lui promet quelqu'un d'influent, c'est ça que ça veut
dire.
Ensuite il lui dit, tu seras une source de bénédiction. Mais regardez bien au début du verset 2, il est dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. L'objectif de la bénédiction n'est pas pour nous-mêmes. À partir du moment où les gens cherchent la bénédiction, d'abord ils cherchent d'une mauvaise façon, c'est pervertir ce que Dieu veut faire dans leur vie. Je le dis souvent, la bénédiction sans le caractère devient une malédiction. Dieu ne veut pas que tu sois béni pour toi-même.
Mais
Dieu veut déverser sur toi sa bénédiction pour que tu puisses être une source de bénédiction. Et ça, c'est toujours le cœur de Dieu et le cœur qu'on doit avoir. Tu veux réussir dans les finances? Ok. Tu veux vraiment être dans le top? C'est très bien. Travaille dans cela, il n'y a pas de problème. Et quand ça va couler en fleuve, fais plein de rivières pour déverser ça sur les autres. Sinon, tu as loupé complètement ce que le Seigneur voulait faire
autrement.
Tu veux être dans le ministère, c'est bien. Tu veux un don de guérison. Pourquoi est-ce que tu veux un don de guérison? Pour aller dire que c'est toi qui guéris les malades? Pour utiliser ça pour récupérer de l'argent, comme certains le font malheureusement? Non,
tu
n'as rien compris. C'était une révélation spéciale sur la guérison divine. C'est pour que tu sois une bénédiction pour ceux qui souffrent. Partout où nous sommes bénis, nous devons déverser. Quelque chose que tu reçois de Dieu et que tu gardes, tu vas le perdre. Tout ce que tu reçois du Seigneur,
il
faut que tu apprennes à le partager. Quand tu fais ça, c'est là où tu deviens une source de bénédiction. C'est là où Dieu pourra t'utiliser. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, quel que soit ce que tu ressens dans ta vie, à partir du moment où tu veux vraiment voir la bénédiction de Dieu couler dans ta vie, l'objectif numéro un est toujours pour être une source de bénédiction. Tu veux une promotion au travail, c'est bien. Sois une source de bénédiction pour les gens que tu vas diriger. Et que eux aussi un jour puissent être promus quelque part parce que tu les auras bien formés. Tout ce que tu reçois, tout ce que tu vois doit être orienté pour que ça soit déversé sur les autres. Si tu veux voir des choses de la part de Dieu,
pour
simplement être un réservoir, c'est-à-dire recevoir, 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 tu seras malheureux. Il y a plein de gens comme ça, plein de chrétiens qui ne sont pas épanouis à cause de ça. Ils ne parlent pas de Jésus autour d'eux alors qu'ils ont reçu le salut. Ils ne partagent pas certaines choses qu'ils ont faites d'expérience avec le Seigneur. Et au bout d'un moment, ces expériences-là sont complètement refroidies dans leur vie, ils commencent à ne plus rien vivre avec Dieu. Ils se plaignent que les autres ne leur témoignent pas d'amour, mais d'abord témoignent de l'amour. Tu vas voir, les autres vont t'en témoigner. Parce que la Bible nous dit quoi? De donner et il nous sera donné. Déverse et il te sera déversé. Le problème, c'est que les gens veulent toujours que ça soit déversé vers eux. Et une fois qu'ils sont bénis, ils sont là et deviennent égoïstes. Par exemple, on voit des gens, quand ils sont célibataires, ils sont là tout le temps, sérieux à l'église, ils sont engagés partout. Et il dit, Seigneur, bénis-moi, tu promets dans ta parole de nous bénir, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, blablabla, blablabla, toutes les belles promesses. Seigneur, je veux avoir des enfants, tu vois, on a du mal à en avoir. Et d'un seul coup, paf, Dieu exauce ta prière. Tu es béni par Dieu. Et tu te refroidis spirituellement. C'est triste de voir ça. Non, plus tu es béni, plus tu dois être chaud avec Dieu.
Et
tu dois partager cette bénédiction. Toi-même être une bénédiction.
Tu as
une belle maison. Gloire à Dieu. Ouvre-la pour faire un groupe de prière. Aide les autres. Investis chez les autres. Tu vas voir. Ça va couler encore beaucoup plus. Partout où nous sommes bénis, nous devons être une source de bénédiction. Partout, ce que tu as comme don, tu dois le déverser sur les autres.
Je
vais vous dire une chose. Plus vous marcherez avec Dieu, plus vous attirerez des jalousies autour de vous. Les religieux ne supportent pas quand des gens marchent avec Dieu et sont bénis par Dieu.
Il
y a beaucoup de gens religieux qui ont des mentalités religieuses, et je parle même des gens nés de nouveau, tristement. Ils ne supportent pas voir des gens être bénis par Dieu.
Et
il y en a même qui deviennent très méchants quand vous êtes trop bénis.
Vous savez,
il y a des gens, ça leur plaît pas quand on est trop, quand ils voient d'autres gens trop bénis.
Non, arrête.
Mais non, je vais m'arranger pour que tu sois moins béni.
Ukamenga ni nk'avuga ati icyo mpankaronka ikintu nkora kugira ngo ntabandanye ahezagirwa.
Je vous dis une chose, quand vous commencez à vivre vraiment dans la bénédiction de Dieu, il faut que les gens fassent attention à ce qu'ils essaient de faire contre vous.
Hein.
Ça peut être très dangereux pour eux. Ils peuvent louper vraiment beaucoup de choses. S'ils sont sauvés, ils peuvent se retrouver vraiment par terre, malheureusement. Vous savez, il faut apprendre à marcher avec Dieu, avec un cœur qui vraiment... est là et sincère devant Dieu. Mais quand vous marchez dans la puissance de Dieu, vous marchez dans la foi. Vous marchez dans la bénédiction. Les gens, ils ont intérêt à être prudents de ne pas faire n'importe quoi. Je connais comme ça un pasteur qui est au Gabon, là. C'est un Nigérien, un pasteur nigérien, quand je vais au Gabon. Il y a des gens qui ont voulu lui faire vraiment des sales coups. Très mauvais. Des histoires épouvantables qu'on lui a mis sur le dos. Et il me disait, il y avait quelqu'un particulièrement qui vraiment avait essayé de lui faire des histoires, avait essayé de le chasser du pays, il y a plein d'histoires bizarres. Comme il était Nigérien, il était étranger au Gabon, et au Gabon, c'est pas facile du tout pour les étrangers. Et on a voulu le mettre à la police, on lui a fait des trucs, mais vraiment terribles. Et le gars qui a fait ça, il est mort quelque temps après. Toute la ville en a parlé. Et il disait après, celui-ci là, premier qui s'attaque à lui, il pourra peut-être finir comme l'autre. Et depuis ce jour-là, il a eu la paix. Vous savez, il ne faut pas blaguer à essayer de faire des choses contre des gens qui sont loin. Abraham, c'était très clair. Je bénirai ceux qui te béniront. Et Dieu dit, je maudirai ceux qui te maudiront.
Waouh!
Et ça, c'est une parole qu'Abraham a vraiment vécue. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu et que vous êtes dans la foi, rappelez-vous, vous êtes un bulldozer. Il
ne
faut pas que les gens se mettent en travers parce que des fois, vous ne les voyez pas avec un bulldozer. Et il y a des gens qui parfois essaient de mettre des pièges, des histoires contre vous. Mais ils ne savent pas dans le danger dans lequel ils se mettent. Quand vous avez vraiment appris à marcher avec Dieu,
ce
n'est pas vous qui vous défendez
vous-même,
mais c'est le Seigneur. Et quand les gens s'attaquent à vous, quand vous êtes dans ce que le Seigneur vous demande de faire,
mais
il ferait mieux de faire extrêmement attention. Parce que c'est eux qui vont être écartés du chemin.
Ce
n'est pas vous. Si vraiment vous avez un cœur sincère, je parle aussi, je mets le si ici, c'est très important. Apprends à marcher dans la foi. Apprends à marcher avec assurance avec le Seigneur. Apprends à marcher comme nous l'avons vu dans ce proverbe dimanche. Dans l'intégrité.
Et
il y a quelque chose qui sera très fort en toi. Et les gens qui te font des coups, aujourd'hui ils rigolent, mais demain ils vont pleurer. Parce que le jour où tu seras tout là-haut, dans les hauteurs, de ce que tu es en train de faire, ils viendront entre guillemets se prosterner devant toi. Ils viendront tout petits en te disant oh pardon blablabla, ou alors ils feront les hypocrites et toi tu seras là avec un sourire et tu diras vous savez pas qui je connais. Et ça fait toute la différence. Quand vraiment tu commences à connaître Dieu profondément, les langues, les coups qu'on peut essayer de faire contre toi, tôt ou tard, ça tourne à la confusion de ceux qui essayent de faire ça. Certains, vous êtes dans le business, on vous fait des coups. Apprenez à être beaucoup plus intelligent. que de répondre dans la chair. Même si on vous a fait des sales coups, parce que parfois ça nous blesse quelque part. Mais sache une chose, ceux qui t'en veulent, ceux qui essayent de te maudire,
ce
n'est pas eux qui pourront prédominer. Si tu apprends à marcher dans la volonté de Dieu et dans la foi, le bulldozer continuera d'avancer. Personne ne pourra arrêter le bulldozer que tu es. Toutes ces montagnes qu'on a essayé de faire contre toi, la corruption, on a essayé de te coincer, mais t'en fais pas. Tôt ou tard, celui qui cherchait des histoires, il va se retrouver. Un jour, j'en ai eu un comme ça. Qui nous a fait, au début de l'histoire de l'église ici, qui nous a fait des histoires inimaginables. Et j'ai dit, lui, il se retrouvera derrière une petite machine à écrire. Vous savez, les machines à écrire, on fait. Vous connaissez ça? Et à l'époque, ce monsieur était directeur dans un département de l'État. Et bien, c'est ce qu'il est devenu. Dans un petit bureau après. Vous savez, quand on s'attaque à l'onction de Dieu, c'est pour ça que ce n'est pas à toi de te défendre tel quel, je dirais, avec la chair. Il faut que tu apprennes les lois spirituelles qui vont confondre ceux qui en veulent, soit à ta vie ou soit à ce que tu es en train de faire.
Si
Dieu t'a dit de faire certaines choses, que tu les fais vraiment avec un cœur honnête, sincère, intègre.
Et qu'il y a
vraiment des gens qui te font des sales coups. Ils vont voir qui habite en toi. Et rappelle-toi toujours de cette parole. Celui qui habite en toi est plus fort que celui qui habite, qui est dans ce monde ici. Amen.
Amen.
Donc ne vous laissez jamais impressionner par ça. Les gens veulent te faire des coups, veulent essayer de maudire ce que tu fais ou ce que tu es. Ne te laisse pas impressionner. Mais apprends à dominer ces circonstances. Et tu vas voir la puissance de Dieu. Et quand Dieu nous défend, croyez-moi, la personne qui reste autour, ils sont tous écartés et très loin. Vous savez, les gens, il faut qu'ils se méfient de qui, à qui ils attaquent. Tu dois l'apprendre. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois apprendre. C'est pour ça que tu dois marcher avec Dieu d'une façon profonde. Ça ne marchera pas avec des gens qui marchent avec Dieu d'une façon assez superficielle. Bon, qu'on reçu Jésus, qui sont sauvés. Mais qui n'ont pas vraiment tout engagé avec le Seigneur. C'est pour ça que la condition à la promesse, c'était ça. Laisse ce que tu as derrière toi. Et voilà ce que je te promets de faire. Ça, c'est le début de la vie d'Abraham. Que le Seigneur vous bénisse, on continuera la semaine prochaine. Bonne fin de soirée.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.